Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 27 mars 2023, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Pour commencer, les titres. Au Burkina Faso, au moins deux leaders d'organisations de la société civile enrôlés dans les rangs des VDP. En Mauritanie, arrestation d'un organisateur de l'évasion de quatre djihadistes le 5 mars dernier. En RDC, exécution de 17 otages de la milice communautaire Codeco dans le nord-est du pays. Arrivée hier au Ghana de la vice-présidente américaine Kamala Harris, première étape de sa tournée africaine. Les États-Unis, profondément préoccupés par la situation en Israël, appellent au compromis. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, des leaders d'organisations de la société civile sont enrôlés dans les rangs des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Au moins deux d'entre eux ont déjà été enrôlés pour les amener au front. Des mouvements de droits de l'homme dénoncent une violation des droits humains. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le premier membre d'organisation de la société civile à être enrôlé comme supplétif de l'armée est Boukare Ouédraogo du mouvement L'Appel de Kaya. Selon les membres de son organisation, il a été enrôlé à l'issue d'une audience avec le capitaine Ibrahim Traoré qui était en séjour à Kaya. Sans citer de nom, le président de la transition lui-même confirme. Il est accusé d'avoir donné des informations sur les réseaux sociaux aux terroristes.
Nous l'avons fait comprendre et nous l'avons engagé immédiatement pour être VDP. Et il en sera ainsi. Tous ceux qui ne sont pas capables d'aller défendre la patrie, ils doivent se contenter de manger et de dormir.
Le second militant de la société civile qui a été enrôlé est Issiaka Ouédraogo, président de la CCP, la coalition de la convergence patriotique. Il avait affirmé ce week-end lors d'une conférence de presse que le gouvernement était à la traîne et n'était pas capable d'amener la sérénité et l'union entre les Burkinabés. Après la conférence, lui aussi a été enrôlé comme supplétif de l'armée. Dans un communiqué, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés a condamné l'arrestation arbitraire et les restrictions de la liberté d'expression qui constituent, selon l'organisation, de graves violations des droits de l'homme. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En Mauritanie, la police a annoncé hier l'arrestation d'un organisateur de l'évasion début mars de quatre détenus djihadistes, dont trois, dont le très dangereux Salek Oudcheikh Mohamedou, ont été tués lors de leur capture et un autre arrêté. Il s'agit d'un certain Mohamed Tay, dit Abu Oussama. Les autorités n'ont pas donné d'autres précisions sur le profil de cet homme, se contentant de dire qu'il sera renvoyé devant la justice après la fin de l'enquête. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est arrivée dimanche au Ghana, première étape de sa tournée dans trois pays d'Afrique, une tournée qui vise à renforcer les liens diplomatiques de Washington avec le continent Mohamed Oumfa.
Accompagnée de son mari Douglas Emhoff, Kamala Harris a été accueillie à l'aéroport d'Accra par le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia, et des hauts responsables des danses traditionnelles au son de tambour et des élèves agitant de petits drapeaux du Ghana l'attendaient à sa descente d'avion. Nous avons hâte de faire de ce voyage une nouvelle affirmation de la relation et de l'amitié durable et très importante entre le peuple des États-Unis et ceux qui vivent sur le continent africain, a déclaré Kamala Harris à son arrivée. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de l'Afrique. Je suis très enthousiaste quant à l'impact de l'avenir de l'Afrique sur le reste du monde, y compris les États-Unis, a-t-elle ajouté. Elle devrait aborder au cours de sa visite la crise climatique, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la hausse des investissements sur le continent. Elle doit rencontrer des entrepreneurs, des étudiants, des représentants de la société civile, ainsi que le président Nana Akufo-Addo. Elle doit aussi visiter une ancienne plaque tournante de la traite des esclaves, le fort de Cape Coast. Elle doit quitter le Ghana mercredi pour la Tanzanie. Sa tournée prévue jusqu'au 2 avril s'achèvera en Zambie.
En RDC, exécution hier par la milice communautaire Codeco de 17 personnes que la coopérative pour le développement du Congo avait prise en otage samedi dans le nord-est du pays, a-t-on appris de sources locales. Leur enlèvement avait eu lieu entre les villages Bambou et Kobou, dans le territoire de Djougou à environ 45 km au nord de Bounia, en Ituri, a déclaré à l'AFP Bangou Nini Gbalande, chef de la communauté Akongo-Niali, où les faits se sont déroulés. Leur véhicule était tombé dans une embuscade alors qu'ils se rendaient de Bounia, capitale provinciale, à la cité minière de Mongboalou, a-t-il expliqué. Selon un habitant de Bambou, trois miliciens Codeco avaient été tués auparavant dans une embuscade tendue par une milice rivale dans cette localité. Nouvelle épreuve de force en perspective au Kenya, le leader de l'opposition, Raila Odinga, a maintenu son appel à descendre dans la rue ce lundi, après l'annonce par le chef de la police de l'interdiction de ces nouvelles manifestations contre la vie chère. Raila Odinga avait exhorté dans la semaine les gens à descendre dans la rue chaque lundi et jeudi pour protester contre la hausse du coût de la vie au Kenya.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'aide s'organise dans le Mississippi après le passage dévastateur de tornades qui ont fait au moins 25 morts. Le point avec Abdourahmane Dia.
À Rolling Fork, une municipalité de quelques 2000 habitants frappée de plein fouet par une tornade vendredi, l'aide a commencé à s'organiser dans la ville dès samedi. La Croix-Rouge américaine a investi un bâtiment de la garde nationale où la nourriture et les produits de nécessité affluent aux côtés de lits de camp. Certains ont fait des dizaines de kilomètres pour prêter renfort. Des électriciens à bord de pick-up ont fait le tour de la ville pour tenter de rétablir le courant aussi rapidement que possible au milieu de nombreuses voitures de police. Le président Joe Biden a ordonné dimanche le déploiement de l'aide fédérale qui sert pour des logements provisoires, des travaux de réparation et des prêts à taux réduit pour couvrir les pertes de biens non assurés. Il avait indiqué samedi que l'État fédéral ferait tout ce qu'il le pourra pour aider aussi longtemps qu'il le faudra. Les tornades ont parcouru le Mississippi d'ouest en est sur plus de 150 kilomètres, laissant dans leur sillon des dégâts dévastateurs, selon Ted Reeves, le gouverneur de cet état du sud des États-Unis. À travers le sud du pays, les orages ont également été particulièrement intenses vendredi.
L'Ukraine a réclamé dimanche une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour contrer le chantage nucléaire de la Russie après l'annonce par Vladimir Poutine que Moscou allait déployer des armes nucléaires au Bélarus. Rosine Mounezero.
L'Ukraine attend des actions efficaces pour contrer le chantage nucléaire du Kremlin de la part du Royaume-Uni, de la Chine, des États-Unis et de la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué. Nous demandons qu'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies soit immédiatement convoquée à cette fin, a-t-il ajouté. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé samedi que la Russie allait déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus et que 10 avions avaient déjà été équipés pour être prêts à utiliser ce genre d'armement. Des responsables russes ont émis à plusieurs reprises des menaces à peine voilées de se servir de l'arme nucléaire en Ukraine en cas d'escalade significative du conflit. Premier pays occidental à réagir à l'annonce de Vladimir Poutine, l'Allemagne a dénoncé une nouvelle tentative d'intimidation nucléaire de la part de Moscou. L'OTAN a fustigé une rhétorique nucléaire dangereuse et irresponsable, affirmant suivre la situation de près. Et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a prévenu que l'Union européenne était prête à adopter de nouvelles sanctions contre Minsk.
Les États-Unis se sont déclarés dimanche profondément préoccupés par la situation en Israël où le ministre de la Défense a été limogé après avoir demandé une pause dans le projet de réforme de la justice. Ils ont souligné la nécessité urgente d'un compromis. Les valeurs démocratiques ont toujours été et doivent rester une caractéristique des relations entre les États-Unis et Israël, a averti une porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson. Les changements fondamentaux pour un système démocratique devrait être menée avec la base de soutien populaire la plus large possible, a-t-elle souligné. Le gouvernement du Premier ministre Netanyahou, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, vise avec cette réforme à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Selon ses détracteurs, le projet met en péril le caractère démocratique de l'État d'Israël. Des milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv dans la nuit de dimanche à lundi, après le limogeage du ministre de la Défense. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le Fonds spécial d'intervention intercommunale et l'Université de Douala ont créé un dispositif qui permet aux collectivités territoriales décentralisées de collecter les taxes dues par les commerçants informels. Ces derniers peuvent s'inscrire sur la plateforme Informal City et payer la taxe afin de bénéficier d'un site en ville pour leurs activités commerciales attribuées par la commune. La nouvelle plateforme a l'avantage de planifier l'aménagement urbain. La première phase du projet sera déployée dans les communes de Yaoundé 2 et Douala. Voilà 3. Selon Western Union, 60% des Africains à l'étranger optent pour des canaux numériques pour envoyer des fonds vers leur pays d'origine. L'enquête a été réalisée dans des pays à fort potentiel de transfert, notamment le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Maroc et le Sénégal. Les émigrés sud-africains et nigérians sont plus de 63% à utiliser exclusivement des canaux numériques. Goldman Sachs a présenté un nouvel objectif de prix de l'or sur une année à 2050 $ l'once contre 1950 $ précédemment. Cette nouvelle prévision intervient alors que l'or a franchi le seuil des 2000 $ l'once lundi dernier en pleine crise bancaire internationale. Selon la banque américaine, le marché de l'or devrait être soutenu par des flux entrants adossés à l'or dans les fonds négociés en bourse quand les taux de la réserve fédérale américaine atteindront leur pic.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Élisée Koumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football et les éliminatoires pour la prochaine CAN se poursuivent avec le début de la quatrième journée.
Oui, et deux matchs ont eu lieu hier dans la poule H. La Zambie vire en tête après son succès de 2-0 au Lesotho. Les Chipolopolo comptent 9 points, 2 de plus que la Côte d'Ivoire qui joue demain au Comores. Victoire 2-0 en déplacement aussi de la Sierra Leone sur le terrain de Sao Tomé. Les Lone Stars sont classés 3e du groupe A avec 5 points.
Le leader surprenant de cette poule A reçoit aujourd'hui le Nigeria.
Vainqueur en déplacement à Abuja, la Guinée-Bissau va essayer de garder la tête du groupe devant des Super Eagles revanchards. Pareil pour le Congo qui se rend au Soudan du Sud pour le reste des matchs d'aujourd'hui. On aura entre autres Niger, Algérie, Madagascar, Centrafrique, Angola, Ghana, Éthiopie, Guinée ou encore Soudan, Gabon.
Déjà qualifié pour cette CAN en Côte d'Ivoire, le Maroc affrontait le Brésil en amical.
Tout à fait. Un match de gala pour les Lions de l'Atlas après leur formidable parcours à la dernière Coupe du Monde. Et au final, ils ont pris le meilleur sur la Seleção 2-1. Une victoire de prestige, la toute première en 3 confrontations, ce qui réjouit le défenseur roumain Saïs.
Franchement, c'était magnifique de pouvoir célébrer le parcours qu'on a fait à la Coupe du Monde chez nous, enfin. Je pense qu'ils le méritaient aussi. Et donc, pour que la fête soit belle, il fallait remporter ce match. C'est ce qu'on a fait. On est tombé contre une belle équipe du Brésil avec énormément de qualité. Mais voilà, on a été à la hauteur, même si par moments, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, encore une fois, l'état d'esprit de ce groupe a fait la différence. Et alhamdoulilah, on a remporté le match. Et on a encore rendu une fois les gens heureux, donc c'est le plus important.
Roumain Saïs, au micro de notre correspondant à Casablanca, Amine Birouk. Prochain match amical pour le Maroc, demain à Madrid contre le Pérou.
On reste au Maroc qui va accueillir en juin prochain la phase finale de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, et en attendant, on jouait le dernier tour de qualification. Et ça passe pour l'Égypte, auteur de nul 0-0 en Zambie, après sa victoire de 2-0 à l'aller. Aujourd'hui, le Congo aussi joue sa qualification à domicile face à l'Afrique du Sud. Suite et fin de ce dernier tour, demain avec ses matchs, le Mali reçoit le Sénégal qui l'a battu 3-1 à l'aller. Avantage par contre de 1 but pour le Gabon qui se rend au Cameroun. En revanche, tout reste ouvert pour les explications Soudan, Niger, Guinée, Nigeria et Ghana, Algérie.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seroudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a gracié ce week-end 380 des 430 rebelles du FACT condamnés la semaine dernière par la justice tchadienne. Ils avaient été condamnés à la prison à vie pour acte de terrorisme, atteinte à la sécurité nationale et à la vie privée de l'ancien chef de l'État. Les citoyens tchadiens apprécient cette mesure et demandent au président de la transition de l'élargir aux jeunes arrêtés lors des manifestations du 20 octobre et qui croupissent toujours en prison. Reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar.
Condamné le 21 mars à deux peines d'emprisonnement à vie par la cour d'appel de N'Djamena statuant en matière criminelle, 380 parmi plus de 430 rebelles du FACT ont été graciés par un décret présidentiel. Maître Francis Lokoulde, avocat de la partie civile, exprime sa satisfaction parce que, dit-il, cette décision traduit en acte la promesse faite en son temps par le président de la transition. Mais il déplore qu'une autre catégorie de condamnés ne puisse pas être concernée par cette mesure.
Le président du FACT, Mahamat Mahdi, et une cinquantaine d'autres condamnés ont été exclus de cette mesure présidentielle. Nous voudrions bien que, si tant c'est la politique de la main tendue du gouvernement pour pouvoir asseoir la conciliation entre tous les fils et filles du Tchad, il va falloir éviter cette situation de tri. On nous dira que ce sont ceux qui ont eu à être prisonniers de guerre qui ont bénéficié de cette mesure. Mais c'est un décret qui porte grâce présidentielle aux condamnés. Et dans le cadre de ce procès, ça fait plus de 400 quelques accusés qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement à vie. Donc, en tant que conseil de tous les condamnés, nous aimerions que cette mesure puisse profiter à tout le monde.
Dans les rues de N'Djamena, les citoyens apprécient cette mesure présidentielle et demandent au chef de l'État de gracier aussi les jeunes arrêtés et condamnés suite aux événements du 20 octobre.
L'acte que le président vient de faire, je crois que c'est une très bonne chose pour aider maintenant les frères qui sont en Italie avec les prêtres en train de négocier pour le retour au pays. Sinon, le premier acte qu'ils ont pris pour condamner les rebelles, ça va enfoncer et qu'on va repartir encore à la case.
Moi, je trouve que c'est un bon acte, mais seulement il faudrait que cet acte-là soit élargi pour d'autres condamnés également, tels que les manifestants qui étaient arrêtés, ceux qui avaient pris les armes pour tirer sont graciés, mais ceux qui manifestent simplement pour revendiquer leurs droits, et cela, pourquoi ne peuvent-ils pas avoir de grâce?
Pour construire vraiment ces nations, ce n'est pas simplement les rebelles seulement, mais il y a aussi les autres jeunes-là qui doivent aussi penser à eux pour les gracier, pour que tout le monde puisse se retrouver pour construire la paix dans ce pays.
Même réaction du côté des partis politiques de l'opposition. Si le président de la transition veut jouer à l'apaisement, il ne peut pas être sélectif dans sa décision.
Dans cet acte-là, même le chef rebelle n'est pas gracié. Or, il est à notre avis l'interlocuteur direct du pouvoir en place. Ce mouvement n'a pas signé l'accord de Doha. À mon avis, s'il y a possibilité de rapprochement, ce serait maintenant.
Djimbay Ousmane Kakoulé, coordonnateur exécutif adjoint du parti phare, parti fédération, il se dit toujours inquiet.
Nos compatriotes, les chefs de partis politiques et certains membres de société civile qui aujourd'hui vivent dans la clandestinité, il faut créer des conditions pour qu'ils reviennent. S'il y a encore un Tchadien qui se cache, s'il y a un Tchadien qu'on considère comme un ennemi, alors j'ai peur qu'on reparte à la case du départ.
Ces rebelles avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement à vie par la cour avec un mandat d'arrêt international décerné contre le chef rebelle Mahamat Mahdi. Ils doivent payer 20 milliards de francs CFA à l'État tchadien au titre de dommages et intérêts et une somme d'un milliard de francs CFA aux ayants droit de Idriss Déby Itno. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Congo-Brazzaville, les autorités ont organisé samedi une table ronde avec les bailleurs de fonds dans le but de lancer l'opération de réinsertion des ex-combattants ninja dans le pool. Le gouvernement a pu réunir la première tranche de sa quote-part et appelle la communauté internationale à faire de même. Notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
La contrepartie du gouvernement est fixée à 2 milliards de francs CFA et la première tranche de 500 millions a déjà été trouvée. Pour le haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants ninja, il est temps pour lancer l'opération. Landry Eloge Kolila appelle ainsi les partenaires du Congo à tenir leurs engagements en mettant la main dans la poche.
Nos partenaires des Nations Unies, on peut commencer à lancer un programme de 4 ans et puis on va le plus tôt possible parce que pour nous, c'est urgent, les populations sont en attente du démarrage de ce programme. Les gens sont un peu fatigués, il faut aller vite et c'est cela qu'on s'attelle un peu, on se bat. On est au combat. Soit 10 000 pour les ex-combattants, 10 000 pour la population civile. Voilà, près de 20 000. Parce que nous ne pouvons pas réintégrer les ex-combattants sans tenir compte des populations d'accueil, des populations qui ont tant souffert dans le département.
Il faut en tout 8 milliards 300 millions de francs CFA pour lancer cette opération de DDR qui va toucher quelques 20 000 personnes, dont 7 500 ex-combattants ninja. Ces derniers sont en attente depuis des années. Selon Alain Philippe Bibi, le porte-parole du pasteur Ntoumi, ex-chef de la rébellion, les jeunes sont fatigués et espèrent que le DDR va leur permettre de reprendre leur vie d'antan.
Étant donné que le gouvernement fait un geste, il va leur falloir effectivement que ce geste soit accompagné par d'autres partenaires au développement en vue de resocialiser les ex-combattants qui attendent depuis pratiquement beaucoup de décennies cette réinsertion qui n'arrive toujours pas. Et nous avons déjà à plusieurs reprises procédé au ramassage des armes. Ces jeunes qui ont donné leurs armes devraient bénéficier de la réintégration pour que effectivement ils prennent la vie comme les autres citoyens congolais. Et ça permettrait également à la cohésion sociale, à la réconciliation nationale. Parce que vous savez que le ramassage des armes, c'est le dernier cran de sécurité.
Depuis février, les ex-combattants avaient appelé le gouvernement à donner une suite à leur situation. En effet, depuis la fin des hostilités en 2017 dans le pool, ils attendent que les autorités prennent soin d'eux, ainsi que de la population qui retourne progressivement dans cette partie du pays. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Dans l'autre Congo, la ville de Goma, dans l'est de la RDC, est toujours confrontée à des pénuries d'eau, malgré les solutions envisagées depuis des années. Cette fois, c'est le système de forage qui est appliqué par une organisation locale avec l'appui technique et financier de l'ONG britannique Tear Fund. Ce système, qui garantit la disponibilité de l'eau aux bornes fontaines, est salué par les habitants des quelques quartiers qui bénéficient du projet. Ils espèrent qu'il soit étendu à toutes les parties de la ville. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Dans les 19 quartiers de la ville de Goma, les populations vivent au quotidien le manque d'eau potable. Une raison pour Effective Life Vision d'envisager les systèmes de forage pour trouver de l'eau sous la roche volcanique sur laquelle la ville est construite, explique Jason Kambere, directeur exécutif d'Effective Life Vision.
Il y a d'abord un problème de manque d'eau dans la ville de Goma globalement. Deuxième élément, il y a le manque d'eau qui crée beaucoup d'accidents et d'incidents dans la circulation. Il y a beaucoup de noyades. Et il y a aussi beaucoup de problèmes, même des violences qui sont répertoriées la nuit lorsque les gens cherchent l'eau.
Les techniciens de cette organisation, représentés par l'ingénieur Jimmy Matumo, ont réussi à mettre en service une station de distribution d'eau puisée dans les sous-sols de Goma après de longues études et des travaux de pompage, a-t-il indiqué.
Pour nous rassurer s'il y a de l'eau sous la terre, on a fait des études géophysiques. C'est à ça qu'après les études géophysiques, c'est quand on est arrivé à dire au bailleur qu'il y a de l'eau et que nous pouvons faire un forage, et c'est ce qui s'est fait et on a fait des forages. Et là où nous sommes ici, nous sommes à 80 mètres de profondeur. C'est là qu'on avait trouvé que la nappe est nécessaire et l'eau était là en quantité.
L'ingénieur Jimmy assure qu'avec ce système à Goma, le problème de l'eau ne se posera plus jamais, quelle que soit la saison.
La nappe de Goma, elle est trop capitale parce que lorsque vous atteignez la nappe, c'est comme si vous atteignez un bassin où il y a vraiment de l'eau en quantité. Ce qui prouve que l'eau ne peut pas diminuer. Il y a de l'eau pendant la saison sèche et pendant la saison pluvieuse.
Déjà trois stations, des prélèvements d'eau sont opérationnels dans les quartiers Himbi et Kasika de la ville de Goma. Antoinette Chiza, une habitante bénéficiaire, apprécie les résultats de ce projet.
Auparavant, pour trouver de l'eau, nous utilisions des camions de ravitaillement si nous ne pouvions pas accéder au lac. Mais depuis que l'eau coule de ces robinets, nous ne souffrons plus.
Le système de forage est une solution innovante à Goma où la population ne consomme que de l'eau provenant directement du lac Kivu. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Niger, des jeunes filles s'engagent pour l'égalité et la lutte contre les discriminations faites aux femmes à travers des activités de sensibilisation et de plaidoyer. Elles mènent ce combat par des animations au sein des FADA, ces cadres d'échange et de prise de décisions traditionnellement réservées aux hommes. Reportage sur la FADA des filles avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Bonjour les filles.
Bonjour Fada.
Les sujets au menu des discussions de la Fada des filles sont divers et les initiatrices saisissent généralement les occasions d'événements nationaux pour engager les échanges comme ce fut le cas lors de la dernière édition de la fête annuelle des éleveurs. À l'époque, trois thématiques avaient été retenues, la scolarisation de la jeune fille, le mariage précoce et le mariage forcé.
Moi c'est Jubo Idé Salamoto, animatrice de la Fada. Je laisse les autres animatrices se présenter.
Je m'appelle Koukaye Boubaka.
Quant à moi, c'est Namata Bayramatu. Et vous?
Nous pouvons savoir pourquoi vous avez choisi le mariage forcé comme sujet?
Bon, on a choisi le mariage forcé parce qu'on a remarqué que c'est fréquent de nos jours et que la société considère toujours ce sujet comme tabou.
Effectivement, c'est fréquent car moi, j'ai été témoin d'un cas récent. Notre voisin a forcé sa fille à épouser un de ses cousins riches, alors que la fille avait déjà un autre homme dans sa vie.
À travers cette discussion, j'ai beaucoup appris et je m'engage à partager autour de moi.
C'est exactement ce genre de paroles que nous attendons de nos participants.
Zainabou Boubacar est la présidente de la FADA des filles. Elle nous explique le concept et ce qu'il vise comme objectif.
Additionnellement, la FADA est un espace communautaire de parole, d'échange et de prise de décision réservé aux hommes et aux garçons. C'est-à-dire que les hommes et les garçons se réunissent autour du thé pour décider des actions à mener au sein de leur communauté. Elle est également un espace de solidarité masculine. Et nous, notre concept, la FADA des filles, est né de la reconnaissance de la nécessité par les filles de s'approprier les espaces de parole, de solidarité et de prise de décision au sein des communautés pour contribuer à la production de transformations sociales favorables à l'avancement des femmes et les filles au Niger.
Pour élargir le champ d'impact de cette initiative, les filles enregistrent certaines séances de la FADA qu'elles diffusent sous forme de podcast.
Mes chers amis de la FADA des filles, nous vous remercions pour votre aimable attention. C'était le podcast Les sœurs aînées de la FADA des filles sur la menstruation, qui est un processus normal et naturel chez les filles et femmes en âge de procréer.
L'initiative de la FADA des filles est à ses débuts, avec les premiers retours positifs en termes de changement et de prise de conscience, notamment chez les jeunes filles. Les autorités la soutiennent. Alahouri Aminata est la ministre de la promotion de la femme.
Les filles ont pris en main leurs responsabilités. Donc vous êtes mieux placés pour comprendre vos problèmes et puis les véhiculer. Et ça c'est très bien, ça c'est une originalité. Hein? Vous continuez dans ce sens-là et vous allez sensibiliser pas mal d'autres filles encore. Et vous allez nous sensibiliser également, nous aussi, vos mamans. Ok.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
C'est très bien.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia, à la mise en onde, Lionel Ronanira Gahima, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.